Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District dans une nouvelle bulle d'histoire. Pour une fois, on ne va pas parler d'histoire ou de bande dessinée classique, j'allais dire. On va parler d'une bande dessinée à vocation scientifique, mais pas que. On va voir ça ensemble. Et je reçois donc Olivier Luge, c'est son nom de dessinateur, qui vient de sortir La Vague au cœur de la tempête. On ne dévoile pas encore quelle est cette vague qui arrive. C'est publié par les éditions Humaine Science. Olivier, bonjour. Question rituelle que je pose à tous mes invités des bulles d'histoire, c'est qui êtes-vous ?
Je suis médecin hospitalier, je travaille dans le service d'addictologie de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. C'est un travail à temps plein. Je ne me suis jamais vraiment arrêté de dessiner depuis que je suis petit. J'ai une pratique assidue du dessin tôt le matin, entre 6h et 7h, pour faire tout ce qui me passe par la tête, y compris des bandes dessinées comme celle qui vient d'être publiée là. C'est ma première publication en format long comme ça.
Donc La Vague au cœur de la tempête, c'est une sorte de chronique romancée, mais évidemment pas seulement romancée, puisque vous étiez au cœur de l'action sur la première vague du Covid en France. Ouais. Vous racontez comment comment les soignants de l'hôpital de Lyon ont reçu cette vague. Pourquoi vous avez choisi de raconter tout ça en dessin avant d'aller un peu plus loin ? Parce que c'est très intense, c'est très profond, il y a beaucoup beaucoup de travail, le dessin est très très soigné.
Je venais de finir une bande dessinée que je faisais que j'avais pas proposé à d'autres éditeurs. Je venais de la finir, je me demandais ce que j'allais pouvoir faire et puis brutalement nous a demandé de vider notre service d'addictologie pour pouvoir accueillir des patients Covid. C'était tellement surréaliste que j'ai commencé par faire une page que j'ai envoyée à tous mes collègues, et puis une autre, et puis chaque jour, c'était tellement surréaliste que je faisais une autre page, et je me suis dit que j'allais essayer d'avoir un petit personnage et d'en faire un fil directeur, et que ça les faisait rire. On avait besoin de ça beaucoup, hein, parce qu'on était un peu tétanisé, on se demandait bien à quelle sauce on allait être mangé.
Ce qui est intéressant dans La Vague, c'est que c'est l'histoire d'un jeune étudiant en médecine qui s'appelle Nils. Vous dites que donc effectivement c'est l'actualité dans un hôpital, mais ce qui rend l'histoire assez passionnante, c'est que c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve plongé dans quelque chose qui dépasse absolument tout le monde. Donc on va raconter son histoire de jeune médecin, son histoire d'amour et son histoire dans l'hôpital. Pourquoi avoir choisi un étudiant pour raconter tout ça ?
Alors au début, j'avais choisi un étudiant plus vieux, un interne. Au tout début, j'avais l'idée d'en faire une sorte de Gaston Lagaffe de la médecine, une machine à gag. Et puis en fait, après... je pouvais pas choisir. C'était compliqué parce que les internes, il y a des internes de spécialité, de médecine générale, etc. Donc, j'avais peur de stigmatiser tel ou tel. Donc, j'ai pris la cellule souche, le truc le plus indifférencié possible, tout jeune étudiant en médecine qui est là depuis un ou deux ans dans l'hôpital et qui ouvre des grands yeux devant tout service en fait où il arrive. Et on était tous un peu comme ça parce que tous nos repères étaient perdus. Alors ça, en fait, je me suis rendu compte après que ça collait vraiment bien, mais on était tous dans ce rôle d'apprenant à nouveau, parce que personne n'avait de référence, tout le monde apprenait à la fois sur le tas, à la fois de ses autres collègues qui avaient un peu plus d'expérience. Voilà. Et puis encore une fois, c'est celui qui se rapproche le plus d'une personne normale à l'hôpital, en tout cas du côté médical, avant d'être un peu formaté par la machine.
Ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, on est, je dirais, au cœur de la machine. C'est-à-dire que les gens comme moi et comme 99% de la population, on a vécu votre vie à l'hôpital à travers les articles de journaux, à travers les reportages finalement très très parcellaires. Ce que vous racontez, c'est à la fois terrible, mais en même temps, c'est souvent drôle, c'est souvent léger, il y a beaucoup de tendresse aussi entre les gens qui travaillent dans l'hôpital.
Ça, c'est une réalité, hein. C'est-à-dire que On est, alors, nous, on a vécu ça. Moi, si vous voulez, c'est pas du tout ma pratique d'aller s'occuper de gens qui ont des problèmes respiratoires.
Hein. Bah oui, oui, oui.
Donc, on s'est retrouvés, et puis notre équipe de soins non plus. Nous, on accueille des gens qui ont des problèmes d'addiction, on fait des ateliers thérapeutiques. Voilà, on n'est pas du tout dans ce type de. Mais on s'est retrouvés, toute l'équipe, on a dû même déménager pour aller dans une unité plus adaptée. Donc, ça a été un moment très fort et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu y aller tous ensemble, en fait. Et donc, on était dans une très grande proximité et. Je dois dire que ça a renforcé probablement aussi, aussi nos liens. On a vécu un truc assez incroyable. Ce qui était drôle, c'est que les gens, les collègues venaient me voir en disant « Tiens, tu pourrais mettre ça, ça, ça pourrait être drôle. » Et donc, c'était une autre façon aussi pour pas mal de monde de relire, de lire en fait ce qui était en train de nous arriver. Et puis, c'était un rythme parce que pendant les 15 premiers jours, tous les jours, je faisais une page, quoi.
Parce que on voit que votre travail, enfin, on voit que votre travail est d'une intensité dément. Enfin, je pense qu'on ne peut pas s'imaginer si on n'est pas dedans. Il faut avoir encore beaucoup d'énergie pour le matin se lever, dessiner pendant une heure.
Alors pour le coup, c'était même le soir là pendant cette période. Ça, c'était pas forcément évident avec la famille parce que on vivait le confinement des enfants, le travail à la maison pour mon épouse, tout ça. C'était quand même tous nos repères étaient un peu bouleversés. Donc j'ai partagé beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis c'est quand le projet éditorial s'est monté, quand Madame Récassens m'a contacté, que j'ai arrêté de diffuser. Mais pendant un moment, c'était très drôle parce qu'il y avait une sorte de petite communauté. Les gens me disaient, on attendait ça, on attendait le soir pour voir un peu. Ils le vivaient en direct parce que chaque planche était faite à partir d'un événement. Alors, il y en avait 10 par jour, des événements sur lesquels on pouvait faire une blague ou une planche. Et il fallait en choisir une et donc j'en faisais une. C'était la surprise, quoi. Et puis, j'avais une petite équipe de relecture qui me disait, ça marche, ça, il faudrait revoir, tout ça. Et donc, c'est une sorte de dynamique, mais épuisante. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, j'ai arrêté de faire tous les jours. Après, j'ai tenu à peu près 4 par semaine, ce qui était déjà beaucoup pour moi.
Bah oui. Alors, ce qui est intense dans la bande dessinée, et ça, c'est pas drôle, c'est la mort qui est absolument omniprésente. Ouais. Et là aussi, on l'a vu, quand on vous lit, on ne peut pas imaginer le sentiment qui envahit tous les soignants. C'est-à-dire qu'on s'imagine que les soignants sont habitués à être confrontés à la mort et à la détresse, même si on imagine qu'ils sont plus confrontés au succès et à la réussite des soins. Mais là, on a l'impression que rien ne préparait à ça.
Alors, en fait, je pense qu'on est tous plus ou moins quand même habitués au décès, mais on est habitués à une certaine manière de décès. Dans chaque service, c'est différent. Les gens meurent quand même globalement d'une certaine manière dans chaque service, je dirais, selon les pathologies qu'ils ont. Et là, on prenait une manière de mourir brutale. Beaucoup de monde, c'était le nombre aussi. C'était ça qui était le plus... c'est-à-dire un mort par jour. Enfin, c'est pas... Normalement, quand il y a un décès, on peut en reparler. Et là, c'était devenu quelque chose de... C'était devenu quelque chose de récurrent, en fait. Donc, il y a des équipes. Alors, ça n'a pas été trop le cas dans notre unité. Nous, on était la 9e unité qui ouvrait. On n'a probablement pas été celle qui est le plus impactée, mais je sais que dans des services comme les gériatries, il pouvait y avoir un décès par jour, je crois. Donc, c'était extrêmement éprouvant. Tout ce qui allait autour, les rites funéraires, les visites, les gens étaient dans un isolement total, qui était très difficile à vivre aussi, bien évidemment, pour les familles, pour les patients et puis pour les soignants, parce que, encore une fois, voilà, nos points de repère volaient en éclats.
Oui, ça, c'est extrêmement fort, je trouve, dans la bande dessinée. Après, chacun voit en fonction de ses sensibilités, ses intérêts, mais je trouve que c'est les pages les plus... évidemment, la mort, c'est bouleversant, mais les pages les plus bouleversantes, parce que c'est vraiment un huis clos entre un patient et puis une petite équipe de soignants. Il n'y a personne autour. Ça, c'est quelque chose de terrifiant, quoi.
C'est ça. Les gens étaient perdus sur une île. Alors, il y avait toutes sortes d'initiatives pour essayer. C'est ça qui était assez beau. C'est chacun essayait de trouver. Alors, il y avait les tablettes, il y avait des écrits aussi pour témoigner de ce que les patients pouvaient vivre, qu'on tentait de remettre aux familles comme une sorte de témoignage. Enfin, il y avait énormément d'initiatives. Ce lien plutôt qui était normalement bien présent, bien établi, qui faisait partie du, du fonctionnement en fait, hein, classique. Là, il était mis à mal et donc chacun essaie de le rapiécer.
Il y a une chose qui est drôle dans la bande dessinée, qui est donc en rapport avec cet isolement, c'est que ce Nils, qui est un chouette garçon dans l'histoire, essaye de trouver plein de méthodes pour soulager les gens. Et bon. il loue un monte-charge pour que la famille puisse voir de l'extérieur. Est-ce que c'est vrai ça?
Alors non, et en fait, mais presque. C'est-à-dire, moi, j'ai fait cette page, c'était du délire complet. C'est-à-dire que l'unité où on avait été mis, il était en bord de l'hôpital. On aurait pu le faire, vraiment. Mais après, j'ai un collègue qui travaille à l'hôpital Lyon Sud, c'est un autre hôpital des Hospices Civils de Lyon, qui m'a raconté qu'en soins palliatifs au rez-de-chaussée, les gens ouvraient les fenêtres qui donnaient sur l'extérieur, donc parce que les visites à l'intérieur du service étaient interdites, et donc ils ouvraient les fenêtres qui donnaient sur l'extérieur pour voir leur famille, en fait. Donc, on était quasiment... C'est-à-dire qu'on essayait de bon an, mal an, d'essayer de trouver comment contourner ces règles qui étaient imposées à tout le monde, mais mal vécues par tout le monde également, quoi.
Ouais. Mais en même temps, des règles nécessaires et importantes pour éviter que ça se propage. Ça aussi, c'est ce qu'on voit bien dans tous vos dessins, cette espèce de folie entre une nécessité absolue de respecter tout ça, et en même temps, c'est un drame total en même temps, quoi.
C'est ça, oui. C'est vrai. Et puis, c'était vraiment une période... Il n'y en aura pas tout de suite des comme ça, parce que même la deuxième vague, ça ressemblait, mais absolument pas à ça. Et puis parfois, il y avait des grands moments de creux, en fait, parce que parfois, on nous avait fait arrêter toutes les consultations, donc on se retrouvait parfois à rien avoir à faire, en fait, hein, à se demander s'il fallait qu'on reste, qu'on parte. Et puis, de temps en temps, c'était très intense, on était très déstabilisés. Alors, on faisait des rencontres, on allait dans les services. J'ai eu la chance de pouvoir me déplacer avec l'équipe de soins palliatifs. Je suis allé... voir plein de services différents. J'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas dans l'hôpital. Et en plus, ça a apporté de l'eau à mon petit moulin de bande dessinée, puisque je me permettais d'enrichir en plus à chaque fois de ces rencontres des situations et des anecdotes. Et puis des gens qui ont besoin de parler, en fait. Vraiment, les gens avaient besoin de raconter ce qu'ils vivaient. Ça avait l'air beaucoup plus essentiel que d'habitude.
Et que devenaient les gens que vous suiviez dans votre service d'addictologie? Ils étaient dans la nature, vous ne pouviez pas les suivre, en fait?
Alors, pendant un temps, ça a été complètement annulé, donc le suivi, en tout cas parenthèse médicamenteux, était assuré, hein. Et puis après, au bout d'un moment, on s'est organisé quand même pour pouvoir les recevoir, pour faire des entretiens par vidéo, plus souvent téléphonique. Mais globalement, les patients, ils en ont pris plein la figure, hein. On est encore en train actuellement d'accueillir des gens qui ont souffert du premier confinement, qui ont rechuté du fait du premier confinement. Et chaque confinement... Enfin, je ne sais pas vous comment ça se passe, mais ça rebat les cartes de nos repères. Et quand nos repères nous tiennent tout juste et qu'on les fait voler en éclats, et ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui se relâchent. Les addictions attendent que ça pour repointer le bout de leur nez. Les angoisses d'attraper le Covid, etc., c'est une affreuse machinerie à rechute, quoi, hein. Donc, c'est très compliqué.
Oui, on voit même qu'il y a... quelques, je ne sais pas si c'était vos patients qui sont, ou en tout cas des patients types qui sont dans la bande dessinée, mais des gens qui sont eux-mêmes pris dans des trafics de médicaments anti-Covid et des choses comme ça.
Alors ça c'est une réalité, c'est-à-dire que ça a été rapporté par un de nos patients, le fait qu'il y avait effectivement sur certains endroits à Lyon, qui sont des lieux de trafic, eh bien, on ne retrouvait pas que des produits stupéfiants. On retrouve aussi des médicaments médiatisés, donc, et étaient potentiellement, en particulier la fameuse hydrochloroquine, on l'a retrouvée sur le marché noir, alors qu'avant, on ne la trouvait pas. Hein. Ça, c'est authentique, ça.
C'est particulièrement bien dressé dans l'album. Cette histoire de Covid, ça va infuser dans toute la société, dans les histoires d'amour, dans les histoires de famille, dans les balades, dans tout, quoi. Y compris chez les brigands et chez les trafiquants. Ça, c'est une chose que vous décrivez, je trouve, vraiment très, très bien.
Oui, alors après, moi, je me suis servi, pour le coup, beaucoup des témoignages que j'avais des gens, la façon dont ils vivaient le confinement. Il y a des gens qui ont vécu des confinements heureux et déconnectés, je dois dire. Hein. J'avais des témoignages assez stupéfiants parfois. Je le symbolise un petit peu par la sœur de Nils là, qui trouve que c'est vraiment affreux parce que je crois qu'elle a plus de chlore pour sa piscine.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, ce qui est un drame. Voilà. Et puis d'autres qui ont vécu ça comme un enfer absolu. Quand vous vous retrouvez enfermé avec quelqu'un avec qui ça se passe très mal de base, ouais. Et votre seul échappatoire, c'est d'aller travailler ou de surtout pas être à la maison et que vous êtes enfermé avec lui, vous imaginez l'enfer, quoi. Mmh. On vivait l'hôpital, mais quand on rentre à la maison, bah, on vivait ce que les autres personnes vivaient aussi, c'est-à-dire que les enfants, on retrouvait les enfants qui avaient fait un petit peu d'écran, sans doute, voire beaucoup, et pas que pour regarder les professeurs. Et puis voilà, c'était... C'était quand même la vie intime, la vie sociale, c'est ça le reste, hein, mais c'était quand même au début déjà super space. Hein.
Quand on regarde votre compte Instagram notamment, là, quasiment toutes les images sont en couleur. D'ailleurs, vous avez vraiment une palette qui est vraiment très très belle. Là, l'album est entièrement en noir et blanc, et les personnages sont noirs d'ailleurs.
Alors le noir et blanc déjà ça va vite. Au début, j'étais parti pour faire une planche par jour, donc ça se jouait parfois au quart d'heure pour que j'aie à peu près mon taf de sommeil. Le projet éditorial, ça allait très bien que ce soit en noir et blanc, parce que c'était le choix. Et après, les personnages en noir, eh bien, je dois dire que c'était aussi la toute première planche que j'ai faite, c'est la, je sais plus la combientième page, parce que j'ai rajouté quelques pages au début pour la cohérence de l'histoire, mais c'est la page 10, celle où on voit la vague qui arrive derrière le personnage qui pense que tout va bien se passer et qu'on a repris pour la couverture. Et en fait, je l'ai fait comme ça, surtout pour aller vite, parce que j'avais pas à faire les traits du visage, j'avais pas à m'appliquer pour la main, pour les intérieurs de main, pour faire des points. C'était vraiment un choix économique, en fait. Et puis, je trouvais que graphiquement, ça fonctionnait bien aussi. Parce que, en fait, oui, c'est ça. Tous nos masques étaient blancs. Donc, je voulais que ça ressorte, en fait. Voilà, ouais, que de loin, les silhouettes, on puisse voir qu'ils avaient des masques. La première planche, c'est vraiment venu le jour où on s'est senti comme sur la couverture. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun patient, il n'y a plus d'eau. La plage est complètement déserte. Et. Moi, j'avais jamais vécu ça, un service où il n'y a plus de patients pendant un jour, deux jours, trois jours, et on attend la vague. Et la vague se profile au loin, quoi. Voilà. Et c'est l'impression qu'on a eue.
Parce que même le noir et blanc, c'est à peu près au milieu de l'album. On est totalement happé par quatre pages, sans personnages, sans dialogue, sans rien. Des personnages de ville vides, mais surtout des planches de printemps. Ouais. Et avec les arbres, on peut dire que c'est des petits cerisiers, quoi, ou des...
C'est la montée des pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Et l'hôpital où je travaille est en haut sur le plateau. Et donc, c'est la montée que je prenais. Normalement, je vis en transport en commun. Et depuis, je me suis mis à marcher, à monter par ce chemin. Et c'était ce qu'on vivait. C'est-à-dire que le coup du printemps, là, je suis pas allé le chercher, en fait. Hein. C'est-à-dire que le matin, je montais et je voyais les arbres et les fleurs sur les arbres les qui s'ouvraient de plus en plus, les bourgeons, les fleurs. Et c'était incroyable parce que à l'intérieur de l'hôpital, c'était la mort. Et tous les matins, il y avait les arbres qui me disaient « Ouais, mais nous, on continue. »
Et je veux dire que dans la lecture, quand on ouvre ces pages, on suffoque comme si on respirait un coup de vent et quelque chose comme ça. C'est assez troublant comme impression. Ça, c'est vraiment bien réussi. Et effectivement, moi, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, mais je sortais tous les jours avec ma fille 2 heures par jour, les heures autorisées. Et j'ai toujours été frappé par le fait que la nature avance à des temps très différents de nous, quoi.
Et alors, c'était très impressionnant parce qu'il n'y avait plus d'entretien non plus. C'est-à-dire que il y avait des hautes herbes partout. À l'hôpital, les herbes étaient hyper hautes, dans les jardins publics aussi. On sentait même que c'était plus encore, enfin la nature était presque plus présente encore que d'habitude. C'était vraiment très beau.
Alors il faut parler d'un personnage qui est évidemment très important dans l'album. C'est le personnage qui s'appelle Kov le virus.
L'affreux là, oui.
Bah oui, l'affreux, oui, il est affreux. Pour nous, il est totalement affreux. Donc vous en avez fait un personnage qui est une sorte bon, évidemment un virus, mais qui est aussi une sorte d'émanation des réseaux sociaux. Il surfe sur les réseaux sociaux, il a un compte YouTube, il a tout ça. Comment vous est venue l'idée de traiter le Covid sous forme d'un personnage super-héros maléfique et d'en faire comme ça un personnage qui s'infiltre partout par les réseaux sociaux ?
Eh ben, en fait, ça s'est fait par étapes. La première étape, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit que, je voulais instaurer effectivement qu'il y ait une représentation personnifiée du Covid et que le personnage principal, l'étudiant en médecine, puisse dialoguer avec lui. Mais ça devait être qu'une page au départ. Et puis, en le faisant, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien, en fait, et qu'il pouvait introduire une dose d'humour un peu particulière. Et après, le coup des réseaux sociaux, finalement, c'est venu sur une demande de l'éditrice qui voulait qu'il y ait un contrepoint justement. Alors au début c'était un contrepoint scientifique, mais comme la science tout le long de cette première vague était une succession de marasmes, il y a un autre point, c'est que mes enfants passent leur temps à regarder des youtubeurs. Donc voilà, vous voyez, c'est des idées qui se, et des choses, des situations qui se percutent, et puis voilà, ça donne ça. J'ai essayé une ou deux pages, ça avait l'air de fonctionner.
Pour finir, moi, j'avais une question qui a presque rien à voir avec la bande dessinée. C'est est-ce que votre expérience avec donc cette première vague, est-ce que ça a eu une influence sur votre pratique d'addictologie? Est-ce que vous avez appris des choses en plus dans cette pratique?
Pour ma pratique d'addictologue.
C'est pure curiosité personnelle. Hein.
J'aimerais avoir le recul. Alors, si peut-être sur la façon dont on peut communiquer très régulièrement avec des patients par téléphone. Ouvert. En tout cas, sur l'intérêt que ça peut avoir, on a expérimenté vraiment de ce côté-là. Donc, sur l'intérêt que ça peut avoir et sur les limites que ça peut avoir également. Parce que le tout consultation par téléphone, c'est... Voilà, ça peut rendre service pour certaines choses, mais il y en a d'autres, ça ne fonctionne pas du tout. Ça modifie mes pratiques parce que l'organisation de l'hôpital est toujours modifiée par par la présence de Covid. Donc ça veut dire je n'arrive plus, nos prises en charge sont différentes. Notre service a été à nouveau Covid pendant la deuxième vague, et là je crains que... voilà. Donc on le sent un peu venir. Et on n'a pas réussi à retrouver quasiment plus d'un mois depuis mars notre fonctionnement habituel. Hein.
Pour revenir à la bande dessinée, donc je saute un peu du coq à l'âne, mais il y a une chose auquel je pense, aucun patient ne pense quand il va voir son médecin, c'est l'angoisse de la première rencontre avec un malade. Ça, ça sous-tend un peu toute l'histoire, parce que ça va être l'histoire de Nils, qui n'est pas encore médecin, mais qui va le devenir. Et il va devoir rencontrer un malade pour la première fois avant d'être diplômé, donc avant d'être un médecin certifié. Quand on lit votre album, on se dit, mais ça doit être absolument glaçant d'anticiper ce premier entretien.
Personnellement, pour le coup, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu. Mais ça, pour le coup, non. Par contre, le coup de me demander si je vais arrêter médecine pour aller faire autre chose, ça, oui. Mais, il y a effectivement des jeunes qui passent dans le service et pour qui se confronter avec des patients addicts, c'est ils savent pas comment faire, quoi. C'est pas possible. Et en fait, c'est très simple. Hein. C'est pas très différent d'avec les autres patients. Et pour certaines personnes, ces premières confrontations, ça pose question parce que y a tout ce qui va avec. En fait, il y a la responsabilité, on a peur de peut-être un peu jugé on a peur de gêner, on a peur de pas savoir faire comme il faut, de blesser ou au contraire. Donc il y a toutes sortes de, quand on est étudiant, on prend toutes sortes de postures qu'on va plus ou moins garder ou adapter. Donc c'est des moments un peu difficiles. Mais c'est quand même, à mon avis, quand même pas l'ensemble des étudiants qui se retrouvent à flipper comme ce pauvre Nils flippe. Mais ça me paraissait un sujet important. Alors ça, je l'ai découvert aux trois quarts de la bande dessinée, mais j'ai eu de la chance finalement. C'est-à-dire que comme on est quand même dans un, comme ce Covid, c'est une sorte de pathologie du lien à tous les étages. Finalement, l'entrée en lien d'un étudiant avec un patient, c'était finalement pas un trop mauvais sujet pour parler de ce, de ce fameux Covid, quoi.
Bon. Juste toujours pour parler des personnages, là aussi la bande dessinée est extrêmement efficace pour faire le portrait du jeune externe qui arrive à l'hôpital, qui parle par QCM.
Ah oui, alors lui, pour le coup, c'est l'interne, oui, qui parle par QCM, tout à fait, ouais. Oui, ça, c'est venu assez. On est formaté au QCM, en fait, hein, on répond beaucoup par QCM, donc. Alors, je crois que maintenant, il y a des réformes qui vont faire que ça sera moins, mais. C'est un processus, il n'y a que la bande dessinée pour faire une narration avec des QCM, je pense. Voilà, je trouvais que ça fonctionnait bien également.
Olivier, on s'est presque tout dit sur la vague. Maintenant, il faut absolument il faut la lire, parce que c'est quand même ça le plus important. Il faut la lire d'abord parce que je trouve que le dessin est une fausse simplicité absolument remarquable. Voilà, chaque fois, je l'ai lu plusieurs fois et je tombe dans des cases. Il y a plein de choses que j'avais pas vues au début et donc je dois me remettre dedans. C'est aussi un album qui permet aux gens comme moi qui ont vécu ça à la fois dedans et de très loin de se rendre compte que les journaux, les médias, mais bon, dont moi je fais partie, ont entretenu une fausse familiarité avec le monde de la science. Et ça, je trouve que vous remettez bien les choses en place. Il y a les médecins, les scientifiques et puis les autres, les faux experts. Ça, c'est une chose qu'il faut pas oublier. Et puis, c'est un témoignage important sur le monde de l'hôpital qui a été sollicité et indispensable pour nous sortir de là. Donc je vous remercie, je vous dis au revoir et puis j'allais dire j'espère pas à bientôt pour un autre album sur la deuxième ou troisième vague, mais pour autre chose.
Non, autre chose. Je veux faire de la science-fiction, vous voyez, c'est mais en même temps c'est pas très différent, hein, parce que
on a l'impression
on est un peu dans un livre de science-fiction, mais j'aimerais bien qu'il finisse là pour le.
Avant de vous quitter, Olivier, je rappelle le titre de votre album, c'est La Vague au cœur de la tempête. C'est publié par les éditions Humaine Science et on le trouve au prix de 12 € dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, merci beaucoup en tout cas de cette entretien.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.